Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Ils s'appellent Alexandre Dumas, Jeanne Duval, Jean-Baptiste Bellet, Ira Aldrit, Joséphine Baker, vous connaissez quelques-uns de ces noms-là, mais ce sont les exceptions de la grande période que nous considérons aujourd'hui dans notre émission qui a comme sujet le modèle noir de Géricault à Matisse. Il y en a d'autres que vous ne connaissez pas. Souvent, nous ne disons que leur prénom ou leur surnom. On les appelle Lala, Joseph, Paul ou Laure ou Mapondé ou Madeleine. Il y a aussi ceux dont on ne sait presque rien, et parfois il n'y a même pas de nom ni de prénom. La Mauresse de Moret, la Négresse au Pivoine, la Vénus africaine, ou le Chasseur africain, un Soudanien, l'Olympia. Ce sont les modèles noirs qui, de la Révolution à Matisse, ont participé à la construction de la modernité occidentale. C'est le sujet de la grande exposition qui commence au Musée d'Orsay. Et c'est cela dont nous allons parler dans quelques instants avec Isolde Pludermacher, qui est la commissaire de l'exposition, qui est conservatrice en chef du Musée d'Orsay, spécialiste du 19e siècle. Nous allons parler tout à l'heure de tout ce qu'elle a fait d'autre. Mais tout d'abord, vous allez bien ?
Très bien, merci.
L'inauguration s'est bien passée ?
Très bien, nous sommes très heureux de cette ouverture.
C'est un sujet difficile et comme c'est un sujet complexe qui porte des tas de questions de société qui sont incroyablement actuelles, et je trouve que c'est d'ailleurs très ingénieux et très, très juste que un grand musée s'occupe de cette affaire. Nous sommes plusieurs aujourd'hui, il y a Anne Lafont qui est avec nous et qui est directrice d'études à l'EHESS. Comment allez-vous ?
Très bien, je vous remercie.
Alors vous êtes une des auteurs du catalogue et vous venez de publier aux Presses du Réel un livre qui est à ma droite et qui s'appelle « L'art et la race, l'Africain ». Tout contre l'œil des Lumières. Et c'est un livre qui n'est pas exactement sur la même période, c'est-à-dire qu'il anticipe un petit peu la montée de ce sujet, l'apparition de ce sujet dans l'histoire de l'art. Et comme l'exposition, il prétend que les artistes ont un rôle dans la construction de la pensée et de la façon de repenser cette affaire, n'est-ce pas ?
Oui, absolument, oui. Alors c'est vrai que c'est un peu en décalage par rapport au sujet de l'exposition, mais on se croise vraiment autour de la Révolution française et finalement autour de la première abolition de l'esclavage. Mais le sujet du livre comme tel, c'était de montrer comment dans la période esclavagiste la plus forte, en fin de compte, qui va du Code Noir en quelque sorte à 1794, comment les artistes se sont emparés de la question de la race et comment ça a été une question en images et sur un plan plastique finalement de représenter les Noirs et qu'est-ce que ça veut les dire dans une société essentiellement blanche et métropolitaine.
Et c'est très important qu'on arrive à considérer cette affaire en sortant simplement de l'exotisme que cela représentait. Et vous avez voulu attirer un artiste parmi nous pour participer au débat. Il ne va pas seulement participer au débat, il a participé à la naissance de l'exposition. Je veux parler de Malik. Abdel Malik, musicien, poète, écrivain, cinéaste, artiste engagé. Vous venez de publier un livre et album qui s'appelle Le Jeune Noir à l'épée, qui est inspiré d'un tableau de qui ?
De Pierre Puvis de Chavannes.
Le grand fresquiste et peintre extraordinaire, professeur de Matisse, par exemple, qui est une des figures majeures de l'époque. Et c'est un tableau de quelle période, à peu près ?
1850, je pense, par là.
Pourquoi vous avez été retenu par ce tableau ?
Moi, vous savez, mon rapport à l'art ou à l'objet artistique, c'est toujours, je laisse toujours la place à l'émotion. Et j'essaye de mettre, en silence mon cerveau. J'explique, je vois ce tableau et c'est un bouleversement. C'est un bouleversement parce qu'il me parle à l'intérieur. Ce jeune noir à l'épée.
Qu'est-ce qu'il représente ? Un jeune noir sur un rocher ?
C'est quoi ? En fait, c'est un jeune noir sur un rocher qui tient une épée, comme ça, Et en même
sur
temps,
l'épaule.
Sur l'épaule, pardon. Vous savez, c'est le monde de l'image. Alors, on croit toujours qu'on est filmé, on fait des gestes. Mais...
Ici, l'image, elle est dans la tête.
Elle est dans la tête. Donc, pour nos auditeurs, ayez cette image de moi-même en train de mimer le mouvement de l'épée sur l'épaule. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que derrière, on voit un peu qu'il y a, il y a des flammes. Enfin, on voit. Et lui, ce jeune noir est serein. Il y a une forme de sérénité, en même temps, une force physique et quelque chose de presque enfantin sur le visage. En tout cas, une sobriété. Et moi, quand j'ai vu ça, effectivement, on a affaire à un jeune noir. Mais pour moi, ce jeune homme aurait pu être blanc, il aurait pu être... Et c'est ça, il aurait pu être n'importe quoi. Et ce que je trouve fabuleux, c'est ça. C'est quand tout d'un coup, évidemment, l'art part d'un particularisme, d'une singularité particulière. Mais j'ai envie de dire, là, tout d'un coup, on est en train de nous dire que l'universel est capable, peut être porté par tous. Et c'est ça, en fait, c'est ça que ça m'a inspiré. Voyant ce jeune homme, je me suis vu moi, et j'ai eu envie de raconter, de manière allégorique, en tout cas, en le replaçant dans mon contexte à moi, l'histoire de ce jeune noir à l'épée. Et cette histoire, j'ai voulu la raconter à la fois sur un récit poétique. C'est le récit que j'ai écrit, qui parle un peu de moi, qui parle de toute cette vision là et puis il y a de la musique, et puis il y a des tableaux, et puis il y a des photos, tout ça parce qu'il y a l'esprit de dialogue. Je me suis inspiré aussi de la poésie de Baudelaire et de la philosophie de Glissant, tout ça pour faire une sorte d'œuvre d'art absolu où l'idée, ça serait de dire que nous avons quelque chose en partage qui est essentiel, et c'est ça que nous devons magnifier, à savoir notre humanité.
C'est voilà. C'est ça que vous appelez réfléchir sans votre cerveau. Oui. Écoutons les premières lignes.
J'ai 19 ans et je suis noire. Ceux qui ont l'œil du cœur ouvert savent bien que la couleur n'est qu'un jeu de lumière. Une réfraction qui a eu lieu à un moment plus ou moins précis de notre histoire collective. Et cette réfraction a pris corps, est devenue une idée, un rayonnement électromagnétique qui a franchi le champ du phénomène physique pour devenir un concept dont on parle dans les livres savants, les faits divers sanglants, les films aux succès obscurs, les vidéos sur YouTube et les disques de rap dématérialisés. Difficilement localisable. Dans le temps et dans l'espace, cette déviation déambule au gré des mythes fondateurs et destructeurs, des royaumes, des empires, des républiques souveraines, des puissances dites civilisatrices, et des différents artistes qui, de manière plus ou moins innocente, en ont fait et défait la chronique. Abd al-Malik, jeune noir à l'épée, 2017.
Isolde Bludermacher, vous êtes la co-commissaire de cette exposition, et évidemment rien que le titre nous interpelle, parce que le modèle noir, ça fait penser à des photos d'Helmut Newton, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça dont vous voulez parler. C'est pas le modèle au sens de l'esthétique, c'est plus compliqué que ça.
Alors c'est vrai que le titre de l'exposition a appelé à de nombreuses réflexions et débats, et il nous a semblé que c'était le meilleur titre possible. Et effectivement, on s'est intéressé à la polysémie du terme modèle, qui renvoie tout à la fois au modèle d'artiste qui pose pour les artistes dans les ateliers, et aussi, puisqu'il est au singulier, aux figures exemplaires. En fait, à travers ces modèles dont on a tenté de retrouver l'identité, et pour certains nous y sommes parvenus, nous avons voulu montrer la présence de Parisiens noirs dès le 19e siècle qui participaient pleinement à la vie artistique de leur temps. Grâce à l'exposition, nous avons pu mener des recherches qui ont permis d'avoir des idées beaucoup plus précises du parcours de certains de ces modèles, et on a pu retrouver leurs noms, leurs adresses, des traits de leur personnalité, parfois leur nom de famille aussi. On a pu, par exemple, je pense à Maria, qui a été le modèle de photographie très célèbre de Nadar, et dont on pense avoir trouvé la véritable identité, puisqu'elle était connue comme Maria l'Antillaise. Et dorénavant, on pensera que Maria l'Antillaise est probablement Maria Martinez, une très célèbre chanteuse et musicienne de l'époque.
Quand vous allez au musée, vous allez voir photographie de Nadar Maria l'Antillaise, ou est-ce que vous allez avoir photographie de Nadar Maria l'Antillaise? Titre ancien, titre nouveau, Maria Martinez. Est-ce qu'en muséographie, ça change votre façon d'exposer?
Oui.
J'espère que c'est pas une question bête, mais c'est...
Ah non, c'est une question tout à fait centrale, au même titre que le titre de l'exposition, le titre des œuvres a été un des enjeux fondamentaux de cette exposition, qui a là encore donné lieu à beaucoup de discussions au sein du commissariat, mais aussi avec notre comité scientifique, puisqu'on a un comité scientifique qui nous a accompagnés, et Anne Lafont en fait partie, donc elle pourra en témoigner comme moi. Et effectivement, nous avons pris le parti de conserver systématiquement les titres historiques lorsqu'il y en avait, c'est-à-dire le titre avec lequel les œuvres ont été présentées au salon, par exemple, mais dans certains cas, de proposer un nouveau titre, notamment dans le cas où l'identité du modèle avait été retrouvée, ou alors quand il s'agissait de termes qui n'étaient plus en usage aujourd'hui, tels que négresse, Capres, Octavon ou autres, que l'on a remplacé par de nouveaux titres. Et en l'occurrence, je pense par exemple à l'œuvre inaugurale de notre exposition de l'artiste Marie-Guillemine Benoît, qui a été présentée au salon de 1800 sous le titre Portrait d'une négresse, et que l'on va aujourd'hui montrer avec un cartel où il est écrit Portrait de Madeleine.
Alors, c'est un tableau magnifique. Anne Lafont, vous pouvez peut-être nous le décrire, parce que ce tableau a comment dirais-je, c'est la négresse en question. Elle est peinte d'une façon extraordinairement, comment dirais-je, la distinction du personnage.
Absolument,
oui. Est mise en évidence.
Absolument. Oui, non, je pense que c'est un tableau tout à fait exceptionnel, enfin qui
en plus fait par une femme, donc c'est
par une femme,
c'est
donc
assez rare.
Tout à fait. Oui. Et c'est un tableau qui en plus avait pas donné lieu à tellement de recherches finalement dans la recherche française, enfin qui avait pas été tellement travaillé et dont il a été très facile finalement de retrouver le nom du modèle justement. En fait, on y est arrivé par deux biais différents, une spécialiste de la peintre en fin de compte, et puis moi-même de mon côté, on a retrouvé qu'elle s'appelait Madeleine, et il suffisait de regarder finalement les archives familiales de la famille Benoît pour retrouver son nom assez aisément. Alors c'est un tableau qui est effectivement exceptionnel, c'est une femme assise avec une partie de la poitrine dénudée, effectivement d'une grande distinction qui a même...
Ce qui n'est pas une caractéristique exotique, parce qu'on le voit aussi chez des...
Chez des Mariannes, dans d'autres
etc.
cas.
Donc c'est une tradition...
À mon avis, comme le disait un petit peu Isole tout à l'heure, c'est polysémique. C'est-à-dire que je pense que ce sein est quand même renvoie aussi à la fonction de la nourrice, qui est très souvent celle des femmes noires, oui, dans les familles justement coloniales, blanches, qui pouvaient donner leur enfant.
On le voit apparaître dans des tableaux de Monet, par exemple les femmes noires qui accompagnent les enfants des familles.
Absolument, mais aussi la nourrice au sens plus littéral, au XVIIIe siècle, où elle donne le sein quand même et nourrit des enfants blancs, qui ne sont pas les leurs en l'occurrence. Donc ce sein, à mon avis, a plusieurs fonctions, et il est aussi quand même une marque. Ce qu'on découvre notamment dans l'exposition à travers le tableau de Biard, c'est que, par exemple, pour signifier l'esclavage, souvent la poitrine est en entier découverte, c'est-à-dire que les femmes esclaves, même dans des milieux d'ailleurs africains, sont dénudés de toute la partie haute finalement de leur corps. Donc un seul sein, c'est quelque chose qui joue sur plusieurs registres. Et c'est vrai qu'en 1800, au moment de la Révolution française, ça peut être aussi quelque chose qui est vu d'abord... Ça pourrait évoquer aussi les Amazones. Enfin, il y a vraiment une polysémie de ce sein, et qu'il ne faut pas réduire justement à quelque chose qui serait juste une exposition ou une invite pornographique. Je pense que ça n'est pas du tout de cet ordre-là. Et son visage est extrêmement distingué. Je trouve même qu'il y a dans une réserve dans son visage, dans son regard, qui montre que elle est complice de cette pose, hein, et finalement de cette collaboration avec l'artiste.
On sent une amitié, en tout cas une relation de qualité avec l'artiste qui l'a peint.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Hein,
je pense que ce qui
est évidence, hein.
Pour moi, c'est une évidence
alors,
aussi.
Alors ça, c'est un prénom qui est arrivé et qui maintenant est accompagné d'un nom. Mmh. Alors il y a un grand personnage au centre de l'exposition que vous connaissez, Malik, peut-être aussi très bien, puisqu'il me semble qu'il y a un poème qu'on va pas tarder à écouter là-dessus. C'est Joseph.
Joseph.
Oui, ça vous dit quelque chose, Joseph?
Bien sûr, ça me dit quelque chose.
Alors c'est qui, Joseph?
En fait, ce qui était pourquoi moi-même j'ai j'ai intitulé un de mes poèmes ou un de mes textes Joseph, où je parle. Parce que, en fait, en questionnant, je voyais que Joseph, ça apparaissait beaucoup. C'était un modèle qui apparaissait. Puis à un moment, j'avais.
Alors, vous dites un modèle qui apparaissait, ça veut dire que c'était quelqu'un qui posait pour les peintres.
Exactement.
Et qu'on voyait dans beaucoup de tableaux,
dans
c'est ça?
Dans beaucoup de tableaux.
Vous le reconnaissiez?
En fait, justement, il y a des moments où on reconnaît. Et puis il y a des moments où je me disais, mais tiens, il a rajeuni par rapport à la dernière fois. Et j'ai questionné par rapport à ça. Et je me suis rendu compte finalement aussi qu'il y avait aussi des noms qu'on donnait. Il y a tel modèle qui s'appelle Joseph qui est connu et puis il y a un autre qui s'appelle Joseph également et moi en fait puisque je me suis nourri de ça pour écrire le jeune noir à l'épée, je me suis dit en fait d'une certaine manière dire Joseph de manière indistinguée, c'était aussi le fait de ce travail sur les imaginaires, le travail sur l'autre ou finalement qu'importe. Et je voulais dire que justement lorsqu'on est la figure d'une certaine manière qu'on objectivise d'une certaine manière comme ça, qui est censé en tout cas représenter des fois ce que je dis c'est vrai et des fois non, mais en tout cas qui représente l'autre, eh ben travailler, réfléchir sur l'altérité, sur la notion d'identité, sur comment finalement un corps va devenir le faire-valoir d'un autre corps, un être va être, et toutes ces réflexions là moi ça m'intéressait énormément parce que j'étais en train d'écrire un poème sur l'identité, et l'identité il y a aussi cette réflexion sur l'altérité. Et donc voilà, donc j'ai appelé ce texte Joseph en me disant en ayant cette réflexion là.
Le jeune homme à l'épée qui est ce fameux
le jeune noir à l'épée.
Le jeune noir à l'épée, c'est Joseph justement.
C'est pas Joseph.
Non,
d'ailleurs il y a
Non, c'est pas lui.
Lui c'est le
parce
jeune
qu'il
noir
est,
à
il est plus costaud. En fait,
c'est pas tant en fait, il faut comprendre. Là on parle de deux choses différentes. Le jeune noir à l'épée, donc ce tableau de Puvis de Chavannes, il y a quelque chose qui est je dirais en tout cas moi comment je l'ai vécu, c'est quelque chose vraiment de l'ordre réellement de l'universel, dans le sens où voilà un modèle qui est dans une tenue de corps où on n'a pas l'habitude de voir un modèle noir positionné de cette manière-là, et finalement il aurait pu ne pas être noir. Et ça aurait été, en tout cas, comment moi je l'ai vécu. Et c'est là où ça devenait pertinent par rapport au reste des tableaux, où quand même, il y avait une réflexion, une interprétation par rapport au fait qu'il soit noir, etc. Ou tout ce qu'on vient de dire par rapport à la découverte de la poitrine, du corps, etc. Mais là, on avait affaire à une figure presque symbolique qui, même sa couleur noire, était à un certain... En tout cas, moi, je l'ai vécu presque de manière secondaire. Et c'est là où ça devient intéressant. Moi, comment je l'ai vécu, ça voulait dire que finalement, aucun être humain n'est étranger à l'humaine condition. Donc finalement, qu'on soit noir, blanc, vert, jaune, rouge, qu'importe, l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on porte en termes de valeur humaine. Et ce tableau-là, et c'était comme quelque chose d'éclatant qu'il me disait comme ça. Et le fait qu'il soit noir, eh ben, ça m'installait moi-même dans cette idée. Ok, je réfléchis sur cette notion d'identité. Voilà une figure qui transcende et qui représente l'universel.
Alors, c'est une figure s'il y a une figure qui a véritablement participé à la construction de l'art moderne, c'est lui, parce qu'il a été pas seulement photographié, il a été peint par énormément de très, très grandes figures. Isolde, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui?
À propos de Joseph.
C'est la couverture. Joseph est en couverture de votre catalogue.
Oui, tout à fait.
Donc c'est...
Oui, je vous parlerai avec plaisir de Joseph, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Juste pour rebondir sur ce que disait Malik, en effet, le jeune noir à l'épée dans l'exposition est justement montré, non pas avec les études d'atelier, mais dans une salle consacrée à 1848, et donc à la deuxième abolition, et il est entouré d'allégories. Et c'est vrai qu'il a cette fonction presque allégorique, et d'ailleurs sa couleur noire, la couleur de sa peau en fait, elle est alliée avec du rouge et du bleu, et en fait on a cette substitution du bleu noir rouge au bleu blanc rouge qui est très intéressante et qui va dans le sens de ce que disait Malik à l'instant.
Donc là, vous parlez de Puvis de Chavannes.
Je parle du Puvis de Chavannes. Je ne parlais pas de Joseph.
Donc, il a vraiment cette idée bleu noir rouge était consciemment désirée par Puvis.
On ne le sait pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a. C'est un tableau avec cette épée qui est quand même très, qui est un symbole très fort de.
Sur l'épaule, oui.
Voilà, ce pouvoir de porter une arme. Enfin, on est juste après 1848, et donc effectivement, on a l'impression avec cet arrière-plan aussi très mystérieux, ce paysage.
images.
C'est une mer, non? C'est maritime, me semble-t-il, ou pas? Pas
sûr. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié au feu, ou en tout cas
oui.
Une forme d'incendie. Enfin, il y a quelque chose.
Ou un coucher de soleil un peu romantique. Ah oui. Enfin, on peut le voir de différentes façons. C'est d'ailleurs ce qui est très, c'est ce qui fait aussi toute la puissance de cette œuvre, c'est que ça dépasse largement la simple étude d'atelier. Mais pour en revenir à Joseph, oui. En effet, on peut dire que c'est le modèle le plus célèbre, le modèle noir le plus célèbre du 19e siècle, mais aussi un des modèles les plus célèbres, quelle que soit la couleur de peau, puisque, en fait, dans tous les ouvrages du 19e siècle, et notamment le grand dictionnaire universel Larousse, à l'entrée modèle, vous avez quelques exemples, parmi lesquels Joseph. Et en fait, sa célébrité vient du fait qu'il avait été repéré par Géricault dans une troupe d'acrobates. Il était natif de Saint-Domingue. Il était arrivé en France au tout début du 19e siècle. Et Madame Saki, qui était une célèbre funambule, l'avait pris dans sa troupe pour jouer les Africains, dit la Bédolière. Et c'est là-bas que Géricault l'a repéré. Et c'était assez classique, en fait, à l'époque, que les artistes cherchent des modèles parmi les acrobates ou les athlètes, puisqu'évidemment leur anatomie était propice à... Voilà.
Mais alors, donc, qui travaillait avec lui? Géricault, Ingres, donc,
Alors, au départ, c'est Géricault. C'est vraiment le modèle de Géricault, et jusqu'à
c'est
aujourd'hui...
C'est lui qui apparaît en tête du radeau de la Méduse, par exemple?
Au sommet de la pyramide humaine, celui qui tient qui fait des signes vers l'Argus.
C'est-à-dire le salut.
Oui, voilà.
Le messager du salut, celui qui obtient le salut, c'est le noir.
Ouais.
De la situation qui est Joseph.
Et alors, il faut savoir que Géricault avait vraiment entouré la conception de son immense tableau d'un grand mystère et d'un grand secret, et que Joseph était donc l'un des rares à pouvoir pénétrer dans l'atelier du maître, oui. Et qu'il a gardé, il a conservé cette aura toute sa vie, puisque c'était le dépositaire des mystères de la création.
Oui, parce qu'il faut se rendre compte, il faut que nos auditeurs se rendent compte que Géricault était, au fond, l'idole des romantiques.
Exactement.
Et que tout ce qui s'est passé autour de Géricault, l'admiration de la croix pour lui et des autres. La mort précoce de Géricault en a fait un mythe pour
oui,
tous.
Oui, et ça a certainement contribué à la célébrité de Joseph. Mais alors, ce qu'on a découvert à l'occasion de l'exposition, c'est que non seulement il avait été donc le modèle favori de Géricault, mais en plus il avait été recruté par l'école des Beaux-Arts.
Oui, ça m'a fait très plaisir de voir qu'on avait un si bon modèle dans notre équipe.
Oui, et alors en fait, il n'y avait guère que trois modèles qui étaient salariés par l'école des Beaux-Arts. Ils devaient se soumettre à un examen devant tous les professeurs, donc Ingres, Gros, Gérard. Et donc Joseph s'est présenté et c'est lui qui a été choisi. Et donc on va montrer dans l'exposition un des exemplaires de l'état de traitement, c'est-à-dire les salaires qui étaient versés aux employés de l'école, et on a la signature de Joseph.
Alors il y a quelque chose que je voulais que vous ajoutiez, mais brièvement, parce qu'il ne faut pas qu'on parle trop longtemps de Joseph, surtout qu'on va entendre un poème sur lui, c'est la question c'est pourquoi est-ce que dans son contrat, il était écrit qu'il serait utile en été mais pas en hiver?
Alors c'est une question que l'on s'est posée en effet, c'est pas dans son contrat mais c'est dans les PV de l'école des Beaux-Arts, et en effet ils disent en raison de sa couleur de peau, et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est le seul moment où on parle de la couleur de peau de Joseph. Au moment de son recrutement, on ne dit absolument pas qu'il est noir. Et ce qui veut dire aussi que Joseph a été vu par tous les professeurs et tous les élèves de l'école des Beaux-Arts dans les années 1830. Et donc, potentiellement, il a été le modèle d'énormément d'artistes académiques et pas seulement la génération romantique. Alors, je ne sais pas, je pense que Anne aura sans doute une réponse.
Anne, vous avez une réponse?
Je n'ai pas une réponse parce que j'étais pas là. mais je pense que c'est une question de lumière. Et de capacité d'éclairer enfin la peau noire, enfin
oui,
c'était un
qui
véritable
pose des problèmes de picturaux absolus comme et de photographie aussi d'ailleurs,
absolument, mais c'est une réalité enfin je dirais organique, phénotypique,
bien sûr,
qui fait que les modalités je dirais d'éclairage étaient plus propices forcément
Alors Anne, il y a une histoire quand même qui est assez extraordinaire dans cette aventure, c'est celle d'Ingres demandant à Chassériau, racontez-nous ça.
Oui, ça,
parce
c'est
que
tout à fait intéressant.
Joseph est devenu Satan.
Oui,
même.
Voilà. Enfin, il ne l'est pas devenu, justement. C'est ce qui est
Malik, allez-y, alors.
Non, je vais laisser les mais c'est vrai, l'étude de nègre au départ qu'on dit maintenant, on a changé, on a dit l'étude de noir. Enfin, il y a les deux titres.
Étude d'après
Le modèle Joseph. Ah, étude d'homme d'après le modèle Joseph.
D'accord. Mais moi, pourquoi je précise par rapport à ça qui était étude de nègre au départ, parce que moi qui ai pris, je l'ai appelé comme ça étude de nègre dans mon, parce qu'il y a toute une réflexion autour de ça. Mais c'est vrai que le fait de dire d'où on part et aujourd'hui on change le titre, ça participe aussi à une évolution et le regard qu'on porte sur une, j'ai envie de dire sur une partie de la de ce qui est la communauté nationale, la communauté humaine, enfin, et que c'est important de montrer cette évolution là. Donc le fait de partir de étude de nègre à étude de, c'est quoi
d'après le modèle Joseph.
D'après le modèle Joseph, oui. Je trouve que c'est important parce
que au moins il existe nominalement quoi.
Ouais, mais et puis on voit l'évolution, comment on part de quelqu'un qui est presque essentialisé à un individu, à un être humain, à quelqu'un de réel et de concret. Et ça montre aussi le
changement des mentalités.
Le changement des mentalités et même pour aller encore plus loin, vraiment, et ça je le dis à titre personnel mais je le pense véritablement, je pense que cette exposition, elle est purement révolutionnaire dans le bon sens du terme, elle est importante parce que tout d'un coup, on est en train aussi de dire, parce qu'on est en France et parce qu'elle est problématiques qu'on connaît, on est en train de dire que finalement la communauté nationale qui est faite d'un j'ai envie de dire un ensemble de communautés, et ben que chaque membre de cette communauté nationale est magnifié et inscrit dans l'histoire. Et inscrire dans l'histoire de l'art, c'est aussi réfléchir en termes d'imaginaire commun. Et comment, et c'est mon travail en tant qu'artiste, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, de se dire comment travaille-t-on à faire peuple. Comment travaille-t-on à mettre en harmonie les uns les autres, et le fait que cette exposition dans un musée qui est une institution, une réelle institution, cette possibilité-là, ça montre aussi qu'on est on avance positivement en France vers quelque chose où on réfléchit à cette harmonie et comment ensemble on va faire peuple. Donc c'est hyper important pour toutes les générations et pour qu'on puisse avancer tous ensemble aujourd'hui.
C'est ça qui a été la motivation de foncer vous dans cette exposition.
Ah ouais, complètement. Parce que moi quand on m'a parlé de ça, je me suis dit mais c'est incroyable. Et le fait que ça se passe, parce que pour moi l'institution, en l'occurrence là on parle d'une institution culturelle artistique, mais pour moi c'est l'agora, c'est le lieu du débat constructif, c'est le lieu de l'échange. Comment je parlais de comment on fait peuple, mais on pose une question, on pose des choses. Là, on parle rapport à l'histoire de l'art, rapport à des tableaux, rapport etc. etc. Et je trouve que tout d'un coup, on est vraiment dans l'acte démocratique par excellence. Et en ce sens-là, ce qui se passe à Orsay, pour moi, c'est fabuleux. Et j'ai le sentiment profond que c'est le début de quelque chose.
Alors, on était parti de Joseph. Pardon d'y revenir, Malik, mais je voudrais revenir une seconde avec vous, Anne, parce que vous alliez nous raconter l'affaire Chassériau. Ingres, qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, c'est intéressant, et puis Isolde en parle très bien aussi dans le catalogue. En fait, peut-être ce qui est intéressant de regarder, c'est la versatilité finalement du corps noir aussi dans les représentations. Et en fait, Joseph, enfin Ingres, a le projet de représenter effectivement le démon, et étant à Rome, puisqu'il est directeur de l'Académie de France à Rome à ce moment-là, il délègue à Chassériau, qui est donc un artiste qui a en plus un ancrage je dirais, dans son corps, voilà. Ah, que, oui, il est métis, Carter, enfin bon, il est une goutte de sang noir, en tout cas.
Il est natif de sang, plus ou moins.
Oui, enfin, en tout cas, c'est devenu caché. Parce que une chose qu'il est peut-être important de dire aussi, c'est que nombre des noms, justement, des modèles, notamment qu'on avait au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, disparaissent dans le temps, alors qu'il y a une première archive qui les mentionnait. Je veux dire, c'est aussi des temps de l'histoire qui sont des oublis et qui réapparaissent. Donc, en l'occurrence, il demande à Chassériau, alors je ne sais pas s'il y a une connivence qu'il croit possible entre l'origine haïtienne, effectivement, de Joseph et celle de Chassériau, qui fait qu'ils pourront travailler ensemble. Mais il dissimule à Chassériau lui-même le fait qu'il a besoin très précisément de la représentation de Joseph dans une pose très particulière, sans lui dire qu'il va représenter le démon. Donc Ingres dissimule à son émissaire et sa main en quelque sorte parisienne le fait que ce corps noir, ce sujet noir, ce modèle noir va être utilisé dans le cadre d'un démon. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que le tableau n'aboutit jamais, comme si ça n'était pas possible. Et il y a comme une résistance, je dirais, justement, à cette forme d'agentivité qu'a Joseph, qui ne peut pas se plier.
Il y a un changement de génération.
Il y a un changement de génération.
C'est-à-dire que Ingres, c'est vraiment l'ancienne génération qui a vécu avant l'abolition de l'esclavage.
Mais il est tout à fait contemporain de Géricault. Il n'est pas, enfin, on ne peut pas dire qu'il y a une génération d'écart. Il y a des positionnements sur l'échiquier et stylistique, et pour le coup, et peut-être politique. Aussi politiques, en l'occurrence, qui font qu'ils n'ont pas la même ambition, mais le tableau n'aboutit pas. Et ça restera une chute. Et aussi, je trouve, dans le tableau de Chassériau, donc qui est cette œuvre préparatoire à un démon, mais non connu, en fait, le sujet noir reprend le dessus et il défile divin. Comme si, justement, il n'avait pas été possible, même dans la prise en charge du corps de Joseph et de son être, finalement, par la peinture, de le glisser dans le projet, quand même un petit peu raciste.
Il en reste
de
un très beau tableau sur ce fond bleu extraordinaire, monochrome, avec
du projet initial.
Un personnage flottant dans une pose hallucinante.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Ingres fournit un croquis donc très précis pour que Chassériau réalise cette étude. Et il écrit spécifiquement sur son croquis que le modèle doit être Joseph. Et Joseph, c'était donc le modèle de Géricault. Donc on a une filiation tout à fait improbable entre justement Géricault et Ingres. Et il demande aussi à ce que... parce qu'il passe pas directement par Chassériau, il passe par un intermédiaire qui doit demander à son élève Chassériau. Et il lui dit qu'il n'a pas besoin de savoir ce que c'est, et surtout qu'il ferme son atelier à tous les curieux, que personne ne le voit. Ouais. Et ça rappelle un peu aussi la conception du radeau de la Méduse. Donc on a une sorte de
mystification aussi du rapport au modèle noir.
En tout cas, maintenant qu'on connaît l'histoire, ça va devenir légendaire, cette affaire. Il y a quand même quelque chose il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Peut-être que ça serait raisonnable d'en finir sur Joseph avec un poème de Malik. Écoutons ce poème.
Joseph, tu te prénommes forcément Joseph. Quand de la culpabilité tu as la tête, même si c'est pas vraiment toi contre le reste du monde. Quand tu n'as plus rien à perdre, forcément tu te dévergondes. Et vu que l'injustice veut faire sa loi partout, allez viens avec nous. Tu le sais peut-être pas encore, mais tu fais partie de notre crew. Tu te prénommes forcément Joseph. Quand en dealer, tu as pour cliente régulière la défaite. Même si tu sais que l'argent sale, ça peut pas rendre clean. Comment faire quand on sait que c'est le premier regard porté qui détermine? Et vu que l'argent de nos jours achète même l'amour, allez, viens avec nous. Abd al-Malik, Joseph, dans Jeune Noir à l'épée, 2017.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de l'exposition Le modèle noir qui est à Orsay, qui pose des questions absolument passionnantes. Vous venez d'entendre un poème d'Abdelmalik, mais pas lu par lui, donc là c'est Olivier Martineau qui le lit. C'est très très différent comme tempo, évidemment.
C'est différent.
C'est bien, on vous pille déjà, c'est volontairement, c'est moi qui le souhaitais.
C'est merveilleux et quand quelqu'un se réapproprie un texte qu'on a écrit, je trouve ça fabuleux.
Je voudrais vous demander, Anne et Isolde, quelque chose sur... une comparaison. Il y a un très beau tableau qui est au début de votre livre, Anne, un tableau de Coypel, hein, qui représente un jeune noir tenant une corbeille de fruits et une jeune fille caressant un chien. Et c'est un tableau très très joli et très il n'y a aucune relation de mépris, même de classe entre les deux. C'est vraiment un tableau qui est assez neutre d'un point de vue social, mais néanmoins un collier assez significatif dont vous nous expliquez le sens. Des sculptures de Pigalle, je pense en particulier au portrait de Paul Zègre et de Thomas Seigneur des Friches, où on a l'impression que la commande des deux permet de ressentir une égale dignité entre les deux. On sent qu'il y a une évolution psychique, comme ça, du temps.
Oui, alors je pense que vous avez tout à fait raison. Pour le tableau de Coypel, c'est très intéressant parce que finalement, c'est le premier surgissement de la fonction de page noire comme ça qu'on peut trouver, mais qui est dans une modalité assez particulière puisqu'effectivement, il n'y a pas une hiérarchie formelle qui fait qu'il y aurait une forme de minoration du jeune homme noir ou de la jeune femme noire avec une aristocrate beaucoup plus adulte. Donc on est là vraiment autour de deux personnes qui semblent avoir le même âge et qui, en termes même de proportions, sont équivalentes, voire le page occupe plus d'espace dans le tableau que la jeune femme. Donc c'est vrai que c'est pas une atténuation, c'est le premier surgissement d'un homme noir comme ça.
Alors le collier quand même, c'est un collier qu'on voit dans beaucoup de tableaux.
C'est un collier
qui a l'air très très joli, un petit collier d'argent extrêmement décoratif.
Non, qui est vraiment un attribut d'esclave.
Et qui est un collier qui évoque l'esclavage.
Absolument. Même si en France les esclaves étaient interdits. Pourtant c'est dans des contextes métropolitains que l'on voit ces jeunes gens là et de fait les esclaves qui touchaient le sol français ne pouvaient plus être esclaves puisque la France tout simplement en fille née de l'Église, ne tolérait pas les esclaves sur son territoire. Donc c'est assez étrange.
Ceci jusqu'à... Donc là, on est en 1664. Hein, donc,
1684, mais 1684. Si vous voulez, toute la période pré-abolitionniste.
C'est déjà le cas, il n'y a pas d'esclaves sur le sol français.
Tout ça est un petit peu hypocrite quand même. Enfin, mais légalement, il n'y a pas d'esclaves et il y a même des procès d'esclaves qui demandent leur totale liberté puisqu'ils ne peuvent pas être esclaves sur le sol métropolitain. Alors c'est vrai que quand on passe au milieu du XVIIIe siècle avec ces deux bustes de Pigalle, l'un est le maître donc, et l'autre est le serviteur, parce qu'il y avait quand même des serviteurs, donc l'un est blanc et l'autre noir.
C'est une commande faite par le maître probablement à Pigalle.
Très vraisemblablement faite par le maître. Et on a plusieurs images d'ailleurs de Paul Zègre qui est le serviteur noir de cette époque-là. Et moi, par rapport à ce que vous disiez sur une évolution, moi je crois beaucoup à, sans l'enchanter, mais au fait que la proximité crée des liens, même en situation de domination. C'est-à-dire que même si on est dans un rapport de maître à esclave, là, le fait même de vivre ensemble crée, nous, des liens, vraiment, au sens de nouer, je dirais, je reprendrai un peu l'imaginaire lexical de Marielle Massé, c'est-à-dire que se noue des choses indépendamment d'une fonction sociale qui garde des privilèges et aussi un manque de privilèges pour d'autres. Donc c'est un peu ce qu'on voit, et Pigalle, à travers ça, réussit dans le monde de l'art, donc, à donner une sorte d'équivalence en termes de traitement stylistique, tout simplement, à ces deux personnes-là, dont l'un est le maître et l'autre est le serviteur.
Pigalle est tout de même le sculpteur de Voltaire, le grand portraitiste de Voltaire. Je pense que ça a du sens d'imaginer que c'est les Lumières qui viennent derrière lui, non ?
On aimerait bien. Voltaire est un...
Je simplifie.
Non. C'est assez juste. Je pense qu'il y a des idées philanthropiques des Lumières qui percent dans le travail, éventuellement, de Pigalle. Le cas de Voltaire est un peu compliqué, parce que c'est précisément...
C'est une des limites de Voltaire, vous voulez dire ?
Une des limites de Voltaire qui était plutôt polygéniste, donc qui n'était pas forcément précisément d'accord avec une équivalence.
J'ai un peu surinterprété ça.
Mais en revanche, vous avez raison, que je suis sûre que les artistes ne sont pas imperméables aux idées progressistes qui sont portées essentiellement par les philosophes des Lumières. Vous avez tout à fait raison.
Isolde, qui est-ce qui, ensuite, parmi les artistes que vous avez dans l'exposition, accompagne ce mouvement vers l'égalité, la fraternité? Quels sont les artistes qui, entre ceux dont nous venons de parler et Matisse, vous paraissent incarner cette transformation des consciences?
Alors, il y en a un dont on n'a pas encore parlé et qui est quand même central dans notre exposition, c'est Édouard Manet, bien sûr. Manet qui est quand même le pivot de l'exposition à travers Olympia. Et d'ailleurs, à l'origine...
L'Olympia, 1863, vous connaissez tous ce chef-d'œuvre, chers auditeurs. Et souvenez-vous de ce qu'on dit la servante, mais en tout cas de la dame noire qui est derrière Olympia et qui porte cet extraordinaire bouquet de fleurs, et avec un contraste coloré incroyable. Et au fond, c'est là que c'est une des peintures les plus importantes, mais aussi, vous faites remarquer dans le catalogue qu'on parle beaucoup du chat, beaucoup de Victorine Meurant, et pas beaucoup de cette servante, qui n'est peut-être pas une servante d'ailleurs.
Alors, c'est ce qui avait frappé Denise Murrell, qui est quand même à l'origine de tout ce projet d'exposition, qui est une historienne de l'art américaine et qui avait, lors de ses cours d'histoire de l'art à Columbia, étudié le tableau de Manet, Olympia, et qui avait été frappée justement par l'importance accordée au modèle Victorine Meurant et à l'invisibilité.
Ça, c'est la blanche, hein.
Voilà, de la servante noire, à laquelle étaient consacrées très peu de lignes critiques du temps de Manet. Il y avait des caricatures où elle apparaissait de manière dénigrée à l'époque de Manet, mais les commentateurs parlaient beaucoup de Victorine Meurant, mais très peu de la servante. Et à l'identique, dans l'histoire de l'art plus contemporaine et jusqu'à aujourd'hui, il y a finalement très peu d'écrits, à quelques exceptions, notamment parmi les historiennes de l'art américaines. Voilà. Et donc, c'est ce constat qui...
Par contre, sur le chat, il y avait...
Et voilà, il y avait beaucoup plus de commentaires sur le chat noir. Donc, le noir du tableau, c'était le chat, finalement. Et voilà, c'est incroyable.
Alors, mais vous la connaissez maintenant, cette modèle qui a servi à...
On sait, on connaît son prénom. Elle s'appelle Laure.
Mais vous n'en savez pas plus. Vous n'avez pas son nom encore. Hein.
Alors, on n'a pas son nom, mais...
C'est symptomatique quand même.
C'est assez symptomatique. En revanche, je dois dire que son prénom, on le connaît depuis quelque temps déjà, puisque le biographe de Manet, Tabaran, l'avait noté dans le catalogue raisonné qu'il a fait de l'artiste. Donc, elle s'appelle Laure. Il avait reporté, en fait, une inscription qui figure dans un carnet de notes de Manet et qu'on expose à Orsay pour la première fois, où il est indiqué « Laure, très belle négresse, 11 rue Vintimille, 4e ».
Et donc, ça, c'est l'adresse du bordel, en fait.
Pas du tout.
Non.
C'est une adresse...
Reprenez-moi, tout va bien.
C'est une adresse qui se situe... Donc, d'ailleurs, l'immeuble n'a pas changé. Hein. Il existe toujours au 11 rue Vintimille. Donc, c'est un immeuble où il y avait beaucoup de commerce. Il y avait ce qui correspond à un milieu d'ouvriers, de commerçants modestes. Il y avait un marchand de vin, un serrurier. Je vous dis tout ça parce qu'en fait, on est allé voir aux archives de Paris, dans les archives cadastrales, et on a retrouvé l'or à cette adresse où elle ne figure là encore que par son prénom, et on peut y voir une survivance d'un usage antérieur à l'abolition, où en fait les esclaves n'avaient pas de patronyme, et sans doute que l'usage de désigner des descendants d'esclaves sans patronyme était toujours en cours à cette époque-là. Et donc il y a bien une Laure au 11 rue Vintimille qui paye un loyer très modeste. Elle habite donc non pas au 4e mais au 5e, dans un appartement partagé entre...
Quand je vous interroge sur Manet, vous me dites il fait basculer un peu les choses, etc. Mais on ne le sent pas tellement, finalement.
C'est vrai que c'est... Dans,
pas clair, votre réponse, là. Mon tour de me défendre un peu.
Voilà. je vais reprendre un peu ce que disait Anne juste à l'instant. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il y a une persistance de certains stéréotypes dans la représentation des Noirs dans Olympia. Effectivement, la femme noire est une servante, la servante d'une femme blanche. Elle porte un bouquet de fleurs et cette association entre personne noire et bouquet de fleurs est aussi très courante dès le XVIIIe siècle. Anne en parlerait mieux que moi. Mais il y a quand même un glissement que l'on peut observer. Il faut d'abord signaler que Manet était un républicain convaincu, qu'en 1848, année de l'abolition, de la seconde abolition, il a fait un voyage en tant que pilotin où il s'est rendu au Brésil et il a écrit à ses parents, et il a été particulièrement marqué par le spectacle révoltant de l'esclave. Donc on sait qu'il avait...
Il a vu un marché aux esclaves.
Exactement.
En fait. Et je rappelle à nos auditeurs qu'en 2017, on a encore vu un marché aux esclaves en Libye, je crois. Non,
absolument.
C'est désespérant. Ouais.
Donc Manet est profondément marqué par cela. Et alors, ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que son tableau donc est présenté au salon de 1865 et que là, 65, en mai 65 très précisément, on est quelques semaines après la fin de la guerre de sécession aux États-Unis. Et on sait que Manet était très intéressé par, comme beaucoup d'autres artistes de son époque, il a représenté d'ailleurs plusieurs tableaux en relation avec ces événements américains, jamais avec des figures noires, mais il se trouve que les différents tableaux où apparaissent des figures noires dans son œuvre correspondent à cette période. Et moi, je pense aussi que cette fonction de servante, elle correspond à des archétypes plus anciens, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas la servante d'une aristocrate, mais elle est la servante d'une courtisane, autrement dit, une aristocrate du sexe. Puisque, comme disait Zola, l'aristocratie du vice, c'était le milieu des courtisanes. Et quelque part, je pense qu'elle a participé directement au scandale provoqué par Olympia, même si elle était d'une certaine manière invisibilisée. Le fait qu'elle soit la servante non plus de quelqu'un de la haute société, mais d'une courtisane, rendait le tableau encore plus scandaleux.
Vous trouvez pas, Malik, parce que Anne Lafont parlait tout à l'heure de la relation qui pouvait exister entre ce qu'on appelait à l'époque un maître et un serviteur noir, etc. Il y a quand même dans le tableau de Manet un échange de regards qui est assez complice entre les deux. On n'a pas la sensation qu'il y a rien de méprisant dans la relation.
Ah ouais, mais là on parle de qui, de la servante.
Oui, le regard d'Olympia.
Parce que moi je vais vous dire, moi en fait le sentiment que j'ai, c'est il y a quand même quelque chose qui est une sorte de du fait que cette femme, la femme noire, pour le coup, elle soit vêtue comme ça, qu'elle ait les fleurs. Il y a quelque chose qui est aussi de la valorisation du corps blanc. C'est comme si elle est une sorte de faire-valoir d'un corps qui est là. Oui. Et ça, c'est assez intéressant parce que bon, évidemment, ne parlons pas des idées progressistes de Manet, etc. Mais juste ce que le tableau, l'interprétation qu'on peut donner, en tout cas, ce que ça inspire. Et moi, d'ailleurs, j'ai mis ce tableau aussi dans mon livre, la reproduction, pour parler de ça, pour dire aussi qu'à un moment donné, il y a aussi tout ce travail en termes de d'égalité, que les êtres humains sont les mêmes et que ce tableau-là, à un moment donné, nous dit quand même que voilà une femme noire, mais qui est là pour mettre un corps noir d'une certaine manière, mais pour le coup qui est bien recouvert, qui porte les fleurs, qui met en valeur un autre un corps qui est le corps blanc. Et ça, c'est assez intéressant. Et dans ce sens-là, où je disais que l'art s'inscrit aussi dans un contexte, dans une époque, dans une manière de voir le monde. Et si on peut construire j'ai envie de dire en termes d'image, si on peut construire quelque chose qui va amener à quelque chose de négatif, on peut aussi déconstruire quelque chose pour, et c'est ce qui se passe de mon point de vue avec cette exposition, c'est-à-dire évidemment il y a l'aspect historique, etc., mais on est aussi en train de déconstruire quelque chose pour réfléchir aussi à cette notion de d'égalité des êtres.
Mais vous avez tout à fait raison, et c'est assez intéressant de voir que cette façon de valoriser un corps blanc ou une personnalité blanche avec la présence d'un noir, c'est un enseignement de l'académie au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on enseignait qu'il fallait, n'est-ce pas, Anne Lafont?
Oui, on trouve des traités, enfin des écrits vraiment théoriques sur les modalités de représentation
de l'Académie royale,
de l'Académie royale de peinture et sculpture, où effectivement la question, finalement, en se glissant dans la question stylistique et la question des théories sur la couleur, on arrive à induire que il faut, pour mettre en valeur le corps blanc qui soit naturel ou performé, c'est-à-dire maquillé, poudré, etc., en mettant tout autour un certain nombre de personnages qui doivent être d'une couleur plus foncée que la personnalité qui est au centre et qui est blanche. Donc c'est aussi...
Si possible, difforme aussi, parce que ça...
Alors ça aussi, on peut varier, je dirais, les plaisirs des contrepoints ou des figures repoussoires, hein, qui sont parfois repoussoires et parfois, dans le cas de Nattier, aussi une forme de dégradé et qui est aussi l'occasion d'une forme de jouissance aussi plastique pour les artistes.
Il y a un truc que vous dites dans votre livre, c'est très passionnant, je trouve. Alors c'est peut-être pour les historiens d'art, mais quand même, dans la grande, vous abordez la question de la grande lutte entre le dessin et la couleur, et vous dites que, me semble-t-il, quelque chose comme le dessin est du côté de la représentation du pouvoir, l'Académie essaye d'imposer la rectitude, la lisibilité, enfin tous les enseignements de Lebrun, et effectivement cette question du noir qui oblige à un travail sur la couleur et sur le, parce que c'est très difficile, comme vous le rappeliez tout à l'heure, de peindre le noir, de trouver la façon dont la lumière va tourner sur le visage, etc., c'est tout de suite aller du côté de la couleur. D'où le noir dans Sardanapale de Delacroix, par exemple.
Oui, absolument.
Hein, c'est extraordinaire.
Et peut-être ce qui est plus intéressant encore, puisque vous l'avez dit très bien, je le redirai pas mieux que vous, et que c'est la querelle du dessin et de la couleur qui, en fin de compte, est marquée par des enjeux, je dirais, aussi de race, finalement, hein, qui se glissent dans une interrogation contemporaine liée justement à l'expansion de l'empire colonial français. Mais ce qui est intéressant, et là je reviens à l'exposition, et on en a parlé un petit peu avec Isolde en la visitant ces derniers jours, c'est comment, à la fin, Matisse crée du noir à partir d'un seul trait. C'est-à-dire que on montre aussi comment on peut, finalement, alors que ça a été au XVIIIe siècle, l'enjeu était de travailler la plasticité de la couleur et du coloris pour signifier, finalement, différentes formes de négritude, comment, à la fin, finalement, Matisse, avec presque rien dans les fleurs du mal, quoi, donc juste après-guerre, crée de la négritude avec l'économie d'un trait. Donc tout ça est aussi très mouvant et, finalement, assez enthousiasmant
C'est dingue. Vous avez tout à fait raison. Moi, je n'avais pas. Je sais que Matisse est dans l'exposition. J'ai regardé dans le catalogue les dessins, etc. Et ce que vous dites, je l'avais pas lu comme ça. J'avais vu une silhouette. Je reconnaissais un visage noir, etc. Dans la silhouette. Mais c'est vrai. C'est sans couleur, sans rien. Juste le
trait. Il y a plus de couleur.
Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Malik? C'est dingue. C'est très beau, ça.
Oui, c'est splendide.
On voit ça dans justement, oui, l'illustration des fleurs du mal. C'est fabuleux. C'est fabuleux d'un trait et tout ça, on voit je trouve que c'est fabuleux et ça a aussi fait partie de enfin en tout cas ce travail-là qui m'a inspiré. vraiment. J'écrivais en parallèle et je regardais ça et je trouve c'est, il y a toujours cette idée là d'un point de vue presque formel, j'ai envie de dire, comment on va dire beaucoup avec peu.
Ouais.
En fait, Mathis... il y a une sorte d'économie qui est, c'est waouh.
Mathis a eu cette amitié avec cette femme noire, comment s'appelait-elle, qui l'a gardée comme amie jusqu'à la fin de sa vie, et qu'il avait rencontrée aux États-Unis, je pense, hein, quand il s'est passionné à un moment donné pour le jazz, pour essayer de découvrir cette autre scène, parce qu'on oublie, mais c'est vrai que cette scène a bouleversé le monde,
ouais.
Hein, la culture musicale, musicale de l'Occident a été fabriquée.
D'ailleurs, il y a une partie du Harlem Renaissance qui est dans les...
Et l'Harlem Renaissance, c'est pas seulement musical d'ailleurs.
Non, mais ça participe. Il y a la musique également. Voilà, c'était juste pour dire, c'est un élément qui fait partie. Évidemment, il y a les poètes.
C'est ça que vous appelez le passage de la globalisation à la mondialité.
Ouais, c'est-à-dire que on a parlé de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un coup. La mondialisation, elle, finalement, j'ai envie de dire, elle commence avec l'esclavage d'une certaine manière.
Ouais.
Et en fait, il y a d'une situation forcée. Eh ben, naît ce que Glisson appelle la mondialité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rencontrent, c'était pas prévu qu'ils se rencontrent. Et ils arrivent à créer quelque chose d'inattendu et qui participe au ciment d'un peuple, à la, je vais employer un mot en bon français, à la pop culture de, j'ai envie de dire d'une certaine manière de l'époque. Et je trouve ça fabuleux. Et c'est en ce sens-là où cette confrontation entre la mondialisation et la mondialité, ce qui est hyper intéressant, c'est comment de quelque chose qui a priori est négatif ou forcé, eh ben, de manière inattendue, va naître du positif, va naître du lumineux, va naître du liant. Et c'est ça qui m'intéresse dans mon travail artistique, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, cette réflexion, comment fait-on peuple? Comment, en 2019, fait-on peuple? Et je trouve que l'art nous donne des réponses fabuleuses.
Je trouve assez extraordinaire quand je pense que le jazz est parti, ou les négros spirituels sont partis de ce mouvement des chaînes d'esclaves qu'on secouait. Oui, que c'est Jean-Jacques Lebel qui me raconte ça, et c'est fantastique de se voir comment on a réussi à créer de la liberté à partir de cet enfer,
c'est ça,
si je puis dire. Vous avez parlé de Baudelaire, l'un et l'autre. Peut-être un mot là-dessus. J'aurais bien aimé vous faire entendre quelques poèmes de Baudelaire, parce que Baudelaire, il y avait autour de lui une personne extrêmement importante, Jeanne Duval, haïtienne. Et bon, allez, on écoute. Ça vous dérange pas?
Non.
Allez, alors. Écoutons Baudelaire.
Ô toison, moutonnant jusque sur l'encolure.
Ô toison, moutonnant jusque sur l'encolure. Ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir.
Extase. Pour peupler ce soir,
l'alcôve obscure des souvenirs dormants dans cette chevelure,
je la veux agiter
dans l'air comme un mouchoir.
La langoureuse Asie et la brûlante
Afrique. Tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêt aromatique.
Comme d'autres esprits voguent sur
la musique,
le mien nage
sur ton parfum.
J'irai là-bas où l'arbre et l'homme plein de sève
se pâment longuement sous l'ardeur des climats.
Forte tresse,
soyez la houle qui m'enlève.
Tu contiens, mère d'ébène,
un éblouissant rêve de voile, de rameur, de flammes et de mâts.
Et si nous parlons de Charles Baudelaire, c'est parce que nous pensons à Jeanne Duval, nous pensons à cette femme haïtienne qui l'inspire, qui l'érotise et que Manet peint, bien entendu. N'est-ce pas, Isolde?
Oui, tout à fait. Alors, haïtienne, c'est une supposition. Contrairement à Laure, par exemple, ou d'autres modèles, on a
la légende l'a fait haïtienne en tout
oui,
cas.
Oui, tout à fait. On a des descriptions physiques d'elle, mais on n'a pas réussi à retrouver de traces.
Vous savez qu'on m'a dit que le poème Le Flacon, vous savez, dans le vaudou, les bouteilles que l'on utilise pour mettre des charmes dans ces bouteilles, avec le flacon du parfum, le fameux parfum, c'était ça, c'était le flacon vaudou. C'est pour ça que...
Dans l'imaginaire, on a associé ça.
Il y a le musée d'ethnographie de Genève avait fait une exposition sur ce sujet-là, justement.
Et Denise Murel dit qu'elle est née d'une mère dans un bordel à Nantes. Alors, moi, je n'ai pas fait de recherche.
Mais tout va bien, l'imaginaire, c'est tellement important.
Ah oui.
Hein?
Oui, c'est important.
Malik, on a réussi, au fond, vous avez l'impression que les temps changent. Je sais que Camus, par exemple, par rapport à ces grandes questions, vous parliez de Glissant, c'est évident, mais Camus aussi a été très important pour vous. Vous avez l'impression qu'il serait content de ce mouvement qui est en train de se faire?
J'ai le sentiment. En fait, il aurait un sentiment double. C'est-à-dire, on est à la fois dans, quand on voit ce genre d'exposition et quand on voit ces gens merveilleux qui travaillent sur ça, c'est fabuleux, mais en même temps, un intellectuel, enfin, on a besoin de, excusez-moi le terme encore, on a besoin d'intellectuels, entre guillemets, j'ai envie de dire, visibles et sexy. Qu'est-ce que ça veut dire visible et sexy? C'est-à-dire qu'ils soient capables de parler de tous et à tous, et qu'on le voit et qu'on entend, et comme on a eu ces grandes figures intellectuelles, dont Camus. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi, parce que ça participe à une sorte de crise de modèle. Et forcément, le modèle noir, moi, cette idée sur la crise de modèle, etc. Donc, tout ça est lié. Et c'est pour ça aussi que je salue par exemple, encore une fois, sans ramener encore une fois, mais que le musée d'Orsay, qui est l'institution que c'est, s'associe à une autre institution qui est la maison d'édition Présence Africaine.
Ah oui, parlez-moi de Présence Africaine. Pourquoi c'est important, Présence Africaine?
Parce que
nous, on connaît pas l'histoire.
Ah ben, Présence Africaine, c'est hyper important. Présence Africaine, c'est une institution, c'est une maison d'édition et un éditeur français. Ils ont 70 ans cette année, monté par Alioune Diop, qui a édité les Amadou Ampateba, les Cheikh Anta Diop, les Césaire, les Senghor, enfin Fanon, enfin toutes ces figures là, et qui a été Alioune Diop, donc le fondateur de cette maison d'édition, qui a été soutenu par des gens comme Camus, comme Sartre, etc., et pour mettre en avant la figure de l'écrivain, de l'intellectuel noir. Je trouve que ça fait véritablement sens, et s'associer au musée d'Orsay dans le cadre à la fois de l'exposition du modèle noir et donc de mon ouvrage, puisque Le Jeune Noir à l'épée est une coédition entre le musée d'Orsay, Présence Africaine et Flammarion. Je trouve que même ça, c'est historique, même ça, c'est fabuleux.
Écoutons un extrait de Jeune Homme à l'épée tel que vous l'avez chanté.
Très bien.
On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. En bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec, salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse-Lautrec? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu un artiste, Abdel Malik. Merci Abdel. Hein. Isolde Pludermacher, donc la co-commissaire, Anne Lafont, auteur et professeur, directeur de thèse, comment est-ce qu'on dit à l'EHESS ?
Directrice d'études.
Oh, c'est impressionnant. Vous retrouverez les références des musiques et des livres, hein. Là, il y a trois livres, hein, dont on a parlé aujourd'hui, sur le site franceculture.fr, lecture des textes Agathe Chouchan et Olivier Martineau, une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutata, prise de son Pierrick Charles, réalisation Guillaume Baldi, merci Guillaume. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.